autour de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Sophie Joubert.
Bonjour, bienvenue. Les années 20 ont connu une double crise économique et cosmologique. Dès 1915, Einstein formule la théorie de la relativité générale qui aboutira à une des révolutions scientifiques les plus importantes de l'histoire, la révolution cosmologique relativiste. Bien avant qu'apparaisse le terme de Big Bang, des hommes ont pensé l'expansion de l'univers et l'évolution du cosmos à partir d'une origine singulière. Pourtant, l'histoire des sciences ne leur a pas toujours rendu justice. Pourquoi les noms d'Einstein et Hubble ont-ils éclipsé ceux du russe Friedman, du belge Lemaître et dans une moindre mesure de l'américain d'origine russe Gamow? Autour de la question « Qui sont les pères du Big Bang ?», la réalisation est signée Cécile Bonici. Bonjour Jean-Pierre Luminet.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien au laboratoire d'astrophysique de Marseille, c'est tout récent.
Oui.
Directeur de recherche au CNRS et votre ouvrage « L'invention du Big Bang » est réédité au Seuil dans la collection Point Science. C'est une version actualisée qui va jusqu'aux toutes récentes découvertes. Alors l'idée de ce livre, c'était de rendre hommage au père fondateur, texte à l'appui, puisque vous reproduisez les textes majeurs de cette cosmologie du Big Bang, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait, oui. Ben, quand on se plonge, quand on veut faire un véritable travail d'histoire des sciences et d'épistémologie, il faut toujours revenir aux sources premières. Alors moi qui de toute façon travaille professionnellement dans précisément le domaine de la cosmologie relativiste, enfin les trous noirs, mais autour de ces grandes questions de la relativité générale et son applications pour comprendre l'univers, je me suis toujours intéressé également aux sources de ce savoir, c'est-à-dire comment sont nées ces idées tout à fait révolutionnaires au tournant du XXe siècle. Et puis j'ai longtemps, avant de m'intéresser très précisément aux textes mêmes, aux textes originaux, j'avais toujours été un petit peu surpris de voir systématiquement revenir toujours les mêmes noms propagés par essentiellement l'historiographie anglo-saxonne, Hubble, l'inventeur du Big Bang, etc. Alors je savais très bien que Hubble, enfin on va en parler, il avait fait certes des observations, mais il ne comprenait pas vraiment le fond théorique, et j'ai commencé à trouver qu'il y avait une grande injustice à oublier les noms des véritables pères fondateurs qui ont changé complètement notre vision du monde, donc Friedman, on l'avait cité, Georges Lemaître encore davantage, et donc j'ai décidé d'écrire cet ouvrage.
Voilà, Georges Lemaître, chanoine belge, on va tout de suite écouter sa voix.
Puisque tout change et évolue, il est vraisemblable que l'évolution de la matière a comme conséquence une variation de la grandeur de l'espace. Il est naturel de nous demander quelles conséquences aurait pour l'univers cette variation du rayon de l'espace et de voir si quelques faits d'observation ne viendraient pas confirmer ces considérations théoriques en fournissant en même temps la valeur expérimentale de la vitesse de variation du rayon de l'espace.
C'était en 1950 dans l'émission Culture Française. Donc Georges Lemaître était un chanoine qui parvenait à concilier Dieu et la science, Jean-Pierre Luminet.
Oui, tout à fait. Je voulais juste dire là que en fait c'est très émouvant pour moi d'entendre la voix de Georges Lemaître, parce que bon, il est mort en 1966 et donc j'étais trop jeune évidemment pour l'avoir écouté, mais ultérieurement et au cours de mon travail, j'ai beaucoup étudié dans les archives Georges Lemaître à l'Université de Louvain, et surtout j'ai rencontré beaucoup de ses anciens élèves, anciens étudiants, qui étaient devenus tous des professeurs, etc. Ils m'en parlaient tous, évidemment, avec énormément d'affection de cet homme extraordinaire.
Oui. Est-ce que c'est parce qu'il était belge qu'il a été un peu oublié de l'histoire ? Parce que l'histoire, c'est plus intéressé en effet aux travaux anglo-saxons.
En partie seulement. En fait, on aura l'occasion d'en parler certainement, mais son article absolument fondamental de 1927, dans lequel, pour la première fois, il fait le lien entre des modèles théoriques, c'est-à-dire issus des équations de la relativité générale, c'est-à-dire des modèles d'univers en expansion, et les observations des Américains sur le décalage spectral des galaxies, c'est-à-dire une fuite apparente des galaxies. Il fait pour la première fois le lien. Cet article, il le publie en français en 1927, et donc il est très peu lu, et il faudra attendre le début des années 30 et des traductions de cet article en anglais, et puis que lui-même écrive d'autres articles en anglais, pour que tout de même effectivement son travail ait davantage d'écho pendant quelques années seulement.
Alors le Big Bang, avant le Big Bang, puisque c'est un peu ce que vous écrivez dans ce livre, L'invention du Big Bang, Jean-Pierre Luminet. C'est d'abord la théorie de la relativité générale d'Einstein. On est en 1915, donc c'est ça le début de cette révolution cosmologique.
Oui, alors ce qu'on appelle la cosmologie relativiste, la cosmologie, c'est la science de l'univers dans son ensemble. Voilà. Ça existe depuis que l'homme essaie de penser l'univers, mais jusqu'au début du XXe siècle, elle reposait essentiellement sur des présupposés philosophiques, métaphysiques et autres. Donc, la cosmologie devient une science réellement que lorsqu'elle devient relativiste, c'est-à-dire on a d'une part une théorie capable effectivement de donner mathématiquement un sens à des hypothèses sur la structure de l'univers et puis des premières observations astronomiques. Alors, tout naturellement, à partir du moment où Einstein publie sa théorie de la relativité générale, qui, je le rappelle, est une théorie de la gravitation, mais qui remet en cause nos conceptions mêmes sur l'espace et le temps. Espace, temps, matière forme un substrat complexe dans un espace-temps à quatre dimensions. Donc on peut l'appliquer pour décrire par exemple les trous noirs, pour décrire le système solaire, mais aussi on peut l'appliquer précisément pour décrire la structure globale de l'univers. Et c'est tout naturellement ce qu'Einstein cherche à faire dès 1917. Et donc il propose un premier modèle de cosmologie relativiste qui est en fait fondé, un modèle intéressant, mais malheureusement il est statique. C'est un modèle qui n'évolue pas. C'est un modèle fondé sur un modèle d'espace qu'on appelle l'univers-sphère. Bon, c'est un peu compliqué, mais donc c'est un modèle d'espace fini,
oui.
Qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de bord, mais qui garde un rayon constant au cours du temps. Alors, ce modèle est intéressant tout de même, parce que pour la première fois, on a un modèle d'espace avec une courbure, c'est plus l'espace euclidien de la géométrie ordinaire, c'est un espace à courbure positive, mais il présente le défaut, enfin initialement on s'en aperçoit pas bien entendu, mais au regard de ce qui va suivre, il présente le défaut d'être statique. Et la même année 1917, un autre grand astrophysicien théoricien qui s'appelle William de Sitter, qui est lui d'origine hollandaise, publie également une autre solution exacte des équations, mais qui est également une autre solution statique. Et il faudra attendre en fait encore quelques années, 1922 très précisément, pour que Alexander Friedman, un russe, découvre de façon géniale les premières solutions avec des modèles, disons, en expansion, des solutions qu'on appelle dynamiques.
Mais alors, on va parler de Friedman, oui. Jean-Pierre Luminet, mais cette histoire de l'univers statique, c'est quand même la grande erreur d'Einstein.
Oui, alors ce qu'il dira plus tard être effectivement sa grande erreur, mais il faut quand même comprendre que à l'époque d'Einstein, c'est-à-dire en 1917, on n'a pas encore d'observations astronomiques qui montrent qu'il y a des grands mouvements, des grands déplacements dans l'univers, c'est-à-dire donc des mouvements de galaxies à grande vitesse. Donc à l'époque d'Einstein, en plus Einstein n'est pas astronome, donc il n'est pas vraiment non plus vraiment au courant dans le détail des observations de son temps. Donc il sait que les vitesses des objets dans l'univers, les étoiles, on ne sait même pas encore en 1917 s'il y a vraiment des galaxies extérieures à la nôtre en plus.
Oui.
Voilà. Donc les vitesses des objets célestes sont extraordinairement faibles par rapport à la vitesse de la lumière. Donc il dit l'univers doit être statique. Et puis effectivement c'était un petit peu enraciné, un peu philosophiquement.
On a dit qu'il
si
était
voulez,
trop influencé par Aristote.
Qui n'évolue pas. Oui, alors on peut dire qu'il est influencé par Aristote, mais en fait, mais par toute une culture séculaire, en fait, où on ne pensait pas qu'un univers puisse avoir une évolution, si vous voulez. On ne peut pas trop faire grief, tout de même, à Einstein. En revanche, on pourra lui faire grief d'opposer autant de résistance un peu plus tard, lorsqu'il sera mis devant l'évidence expérimentale que l'univers doit évoluer, et il aura beaucoup de résistance.
Autour de la question « Qui sont les pères du Big Bang ?», on va parler tout de suite de l'apport du russe Alexandre Friedman, juste après Brigitte, Big Bang sur RFI.
Comme Dakota était 53, Suzanne fait briller les cheveux de ses messieurs, mais ils ne la voient pas, et Suzanne prit tout part, elle a de l'amour à revendre, la fin au vent. Quand il a
banque quand il a compris ce qu'on était là. Avoir trouvé la bonne foi. Au pays des candides, au pays des bandits, son palpitant a fait le big bang. Quand elle a compris, quand il a compris que sa chérie n'était pas un ange, il a été roulé dans la fange. C'est pas si ça, ça dérange. C'est pas si ça, ça dérange. C'est pas si ça, ça dérange.
Brigitte, Big Bang au pays des candides sur RFI. Jean-Pierre Luminet, on parlait tout à l'heure du russe Alexandre Friedman. Il est né en 1888, mort en 1925. Et compte tenu du fait qu'il est russe, la théorie de la relativité générale d'Einstein lui arrive au fond très très tard, puisqu'il y a eu la guerre, il y a eu la révolution d'octobre, et il publie son opus majeur en 1923 seulement.
Oui, donc c'est un brillant physicien qui travaille à l'université de Saint-Pétersbourg. Et effectivement, il prend connaissance des articles fondateurs de la relativité générale. Il se déplace pas en dehors de Saint-Pétersbourg, il n'a pas le droit de voyager en dehors de l'Union soviétique. Mais voilà, il a un véritable génie novateur qui le fait calculer en fait en 1922, pour une publication en 1923, des solutions nouvelles, des solutions exactes, des équations de relativité décrivant l'univers. Mais cette fois-ci, il montre que les solutions naturelles ne sont pas statiques, mais dynamiques. Et donc, c'est la porte ouverte en fait à ce qu'on appelle aujourd'hui les modèles de Big Bang, c'est-à-dire des modèles qui sont où l'on sorte de rayons d'univers qui augmentent au cours du temps, par exemple, dans une phase d'expansion, ou éventuellement qui peuvent se recontracter, etc. C'est-à-dire un univers qui évolue. Et Alexandre Friedman conclut que si on remonte un petit peu dans le passé, l'univers peut éventuellement avoir été créé à partir d'un point singulier qui est une sorte de véritable création de l'univers. Voilà. Et puis il conclut très honnêtement, parce que nous sommes donc en 1922-1923, il n'y a toujours pas d'observation astronomique, même sur la nature des galaxies extérieures, et encore moins sur les vitesses de fuite des galaxies. Il en conclut que les observations astronomiques ne lui permettent pas de supporter expérimentalement les solutions qu'il propose. Il accomplit un deuxième article en 1924, très intéressant, où cette fois-ci il étudie d'autres modèles toujours en expansion perpétuelle, un peu plus complexe parce que ce sont des modèles dits avec une géométrie hyperbolique, mais il aborde dans cet article quelque chose qui est complètement passé inaperçu en son temps. Et moi, quand j'ai étudié donc cet article, l'original, j'étais stupéfait de découvrir que pour la première fois, il parlait d'un vaste problème qui ne sera abordé que 50 ans plus tard, celui de ce qu'on appelle la topologie de l'univers.
C'est votre passion.
Ça c'est ma passion. Mais bon, on peut pas trop déborder là-dessus parce que sinon on fait toute l'émission là-dessus. Mais tout simplement pour parler effectivement du génie novateur de Friedman. Et alors, d'abord quand il publie son article de 1922, Einstein le lit parce qu'il est tout de même publié en allemand dans une grande revue allemande, les Zeitschrift für Physik. Donc Einstein le lit et tout de suite il écrit une note sur le travail de Alexandre Friedman, disant que Monsieur Friedman a commis une erreur de calcul. Ça montre un petit peu que Einstein n'aimait pas cette idée de. Alors Friedman lit ça, il est quand même très très dépité. Il sait très bien qu'il n'a pas commis d'erreur. Et comme il n'a pas la possibilité de sortir du RSS pour rencontrer Einstein et lui expliquer, il envoie un de ses amis, qui est un scientifique amateur.
Qui va faire le go-between.
Le messager. Il va rencontrer Einstein, il lui apporte une lettre que lui a rédigée Friedman, et Einstein, extrêmement honnêtement, refait ses calculs. Il s'aperçoit que c'est lui qui a fait une erreur de calcul, et il publie une deuxième note en 1923, où il reconnaît son erreur, en disant que les solutions trouvées par Friedman sont pertinente et juste, mais dans le manuscrit original qui n'a pas été publié, enfin avec la phrase, la dernière phrase qui n'a pas été, qui a été supprimée de la publication, mais qui est dans le manuscrit original d'Einstein, il rajoute, mais ce sont quand même des solutions auxquelles on ne peut accorder aucune réalité physique. Ça montre bien la résistance qu'avait Einstein envers l'idée d'un univers dynamique, un univers qui bougeait, parce que après il a exprimé plus tard, notamment dans son opposition à Georges Lemaître, extrapoler dans le passé, ça implique peut-être un début de l'univers, une création de l'univers, et Einstein trouvait que ça réintroduisait des idées un petit peu théologiques qui ne lui plaisaient pas.
Mais ce qu'on a dit de Friedman, c'était que c'était beaucoup des mathématiques et pas tellement de la réalité physique. C'était ça qui plaisait pas à Einstein?
On l'a dit, mais non. Vraiment, ce qui plaisait pas à Einstein, c'était réellement l'idée d'un début de l'univers. Et puis c'est exagéré de dire que Friedman était essentiellement mathématicien, parce que donc dans ses articles, quand on les lit, quand on remonte enfin aux sources, hein, parce que c'est toujours des histoires de seconde ou troisième main où on lit que Friedman était un pur mathématicien, quand on lit vraiment ses articles. Il met les données astronomiques qu'il a de son temps et il est suffisamment honnête pour reconnaître qu'elles ne sont pas suffisantes pour appuyer ces modèles. Mais tout de même, il donne une estimation dès 1922. Supposons par exemple que la masse de l'univers soit de l'ordre de 10^21 masse solaire, ce qui n'est pas si loin de ce que l'on pensait à l'époque, etc. Et il en déduit un âge de l'univers, puisqu'il a, parmi ses modèles, il a un fameux univers, modèle d'univers cyclique en expansion-contraction. Donc on peut calculer la durée de ce cycle l'univers, il dit c'est 10 milliards d'années. Donc il est déjà dans les bons ordres de grandeur de ce que l'on sait aujourd'hui sur l'âge de l'univers qui est estimé aujourd'hui à 14 milliards d'années. Donc déjà, il y a tout de même un peu de données astronomiques qui permettent à Friedman de faire quelques prédictions. On peut se demander jusqu'où il serait allé s'il n'était pas mort accidentellement en 1925, parce que j'ai oublié de dire qu'il était météorologiste au premier chef. Et il faisait des ascensions en ballon. Oui. Et il a fait une ascension en ballon au cours de laquelle il a attrapé une pneumonie et il est mort. Et donc il n'a jamais pu vérifier, assister au triomphe de ses idées.
Et alors ce qui est terrible concernant la postérité ou la non-postérité de Friedman, c'est que des années après, sa tombe avait complètement disparu du cimetière dans lequel il était enterré.
Oui, C'est une belle anecdote. Tout le bouleversement qui se sont passés après l'Union soviétique, des déménagements de cimetières, etc., etc. Voilà, on s'est aperçu très tardivement dans les années 90, au moment où on voulait retrouver la tombe de Friedman à l'occasion d'un colloque qui était consacré à son centenaire, etc., que cette tombe était très difficile à trouver parce qu'elle avait été déplacée de cimetière à l'autre, etc. Mais on a fini par la retrouver.
Grâce à un fossoyeur physicien.
Alors, un physicien qui avait perdu son emploi au moment de la désagrégation de l'URSS, etc. Il était devenu fossoyeur. Il vouait un culte à Alexandre Friedman. Et quand l'étudiant chargé de trouver la tombe est allé dans le cimetière, c'est le fossoyeur qui lui a dit, mais moi, je sais où il est.
Alors, voilà. On va parler de Lemaître dans quelques instants. Oui. Alors, il y a toute une controverse sur Lemaître et Friedman. Est-ce que Lemaître connaissait ou pas les travaux de Friedman?
Non, il n'y a pas du tout de controverse sur Lemaître et Friedman. Il y a une controverse sur Lemaître et Hubble, mais pas sur Lemaître et Friedman. Lemaître a repris indépendamment de Friedman donc ce travail mathématique d'étudier les solutions les plus générales des équations de la relativité pour des modèles d'univers, et donc il a retrouvé les modèles de Friedman sans savoir que Friedman l'avait fait,
voilà.
Parce que Lemaître ne lisait pas l'allemand et Friedman n'avait plus bien l'allemand. Mais lorsque donc le premier article donc de Lemaître sur cette question date de 1927, et lorsqu'il rencontre Einstein la même année, Einstein lui signale le travail déjà de Friedman, tout en répétant qu'il n'est pas d'accord avec. Et après, Lemaître aura l'honnêteté absolue de toujours citer Friedman en disant qu'il s'excusait en 1927 de ne pas avoir le cité parce qu'il ne l'avait pas lu.
Jean-Pierre Luminet, vous restez avec nous. On va continuer de parler de Lemaître, de Hubble, mais aussi de Gamow et de Fred Hoyle juste après les informations. On se retrouve dans quelques minutes sur RFI.
Sol majeur.
Autour de la question.
Sophie Joubert.
Autour de la question, qui sont les pères du Big Bang, avec Jean-Pierre Luminet, astrophysicien au laboratoire d'astrophysique de Marseille, directeur de recherche au CNRS et auteur de l'invention du Big Bang, réédité en collection en Point Seuil Science. Alors nous allons consacrer une bonne partie de cette émission au chanoine Georges Lemaître. Mais avant, je voudrais qu'on repasse par les observations de l'astronome américain Edwin Hubble, qui découvre les céphéides en 1924 et démontre l'existence d'autres galaxies. Écoutez Jean-Claude Péker, astrophysicien, professeur honoraire au Collège de France. Il était interviewé dans l'émission Les chemins de la connaissance sur France Culture en 1975.
Il est certain que Hubble, dans les années 1920-1924, c'est surtout vers 1924 qu'ont commencé les plus importants de ses travaux, ne disposait pas d'instruments extraordinaires. Il n'avait pas encore naturellement le grand télescope du Mont Palomar, mais il avait quand même des grands télescopes. Le grand télescope du Mont Wilson était en service. Et Hubble s'est mis à étudier, très en détail, les spectres de ces galaxies et les déplacements vers le rouge des raies spectrales qui peuvent être dus à un mouvement des galaxies s'éloignant de nous, ou se rapprochant de nous. Quand elles s'éloignent, on a un déplacement vers le rouge. Quand elles se rapprochent, on a un déplacement vers le bleu.
Oui, en fait, c'est l'interprétation classique par l'effet Doppler des décalages spectraux.
En même temps que Hubble faisait cette mesure du décalage spectral, il déterminait la distance de certaines galaxies en utilisant soit les céphéides, soit les étoiles nouvelles aussi, un autre critère de distance, qu'il pouvait observer à l'intérieur de ces galaxies. Il faut rappeler que c'est Hubble qui, le premier, a résolu, en quelque sorte, grâce à la puissance de son instrument, a résolu en étoiles des galaxies comme la nébuleuse d'Andromède. Et il a fait ce travail pour une trentaine de galaxies relativement proches.
Alors, il existe bien une controverse Lemaître-Hubble, Jean-Pierre Luminet. Oui. Alors, c'est un peu compliqué dans la chronologie, puisque Lemaître publie son article fondamental en 1927. La loi de Hubble est publiée en 1929, mais Hubble avait fait des observations avant. Alors, est-ce que vous pouvez remettre tout ça dans l'ordre ?
Oui, tout à fait. Très intéressant d'écouter l'interview de mon ami Jean-Claude Péker. Elle date de 1975, et effectivement, l'historiographie a un petit peu évolué là-dessus sur les contributions exactes de Hubble. Alors, c'est vrai que au début des années 1920, il y a une grande question non résolue, qu'on appelle même appelé le grand débat, c'est sur la nature extragalactique ou pas de ce qu'on appelait les nébuleuses spirales qui étaient vues au télescope et dont on ne savait pas si c'était peut-être une sorte de petits nuages ou amas d'étoiles de notre galaxie, qui auquel cas aurait été la seule galaxie dans l'univers, ou si c'est au contraire c'était des galaxies extérieures. Et c'est Hubble qui résout effectivement, grâce à l'utilisation, c'est un brillant jeune astronome, très ambitieux aussi, il faut bien le dire, est très imbu de ses capacités, mais il a la chance extraordinaire de bénéficier du télescope du Mont Wilson, tout récent, installé aux États-Unis, qui est de loin le télescope le plus puissant de l'époque. Et grâce à ses observations assidues, il démontre effectivement que des objets comme la nébuleuse d'Andromède sont réellement des galaxies extérieures à la nôtre. Donc c'est déjà un élargissement de la géographie de l'univers. On sait qu'il y a d'autres galaxies que notre propre Voie lactée. Ça, c'est une première chose. Après, la deuxième chose, c'est comment bougent ? Est-ce que ces galaxies bouge. Et ça, pour ça, il y a une méthode pour savoir comment les galaxies bougent, c'est de mesurer leur décalage spectral. Mmh. Voilà. Donc, si on pense à l'interprétation traditionnelle, ce qui s'appelle l'effet Doppler qui a été mentionné, quand une source se rapproche de vous, il y a un décalage vers le bleu, ça s'appelle, quand une source s'éloigne, il y a un décalage vers le rouge. Et alors, bon, contrairement à ce qui a longtemps été dit, mais ça on le sait, c'est pas du tout Hubble qui a commencé à faire les premières mesures de décalage spectraux, c'est un de ses collègues américains que Hubble n'a quasiment jamais cité, qui s'appelle Vesto Slipher, qui dès 1915 a commencé à mesurer des décalages spectraux d'objets. Il savait même pas que c'était des galaxies, il était même pas sûr, mais il montrait qu'il y avait des décalages vers le rouge. Et ça a réellement, la surprise a éclaté dans les années 1925. C'est Eddington, un grand astrophysicien britannique, qui écrit un livre sur la théorie de la relativité et ses conséquences, et qui dit, c'est curieux, dans les mesures de décalages spectraux faites par Slipher, parce que Hubble n'avait pas encore faites, il y a 45 décalages spectre trop systématiquement vers le rouge. Comment expliquer ça? Voilà. Eh bien, la première explication qui est donnée, ça va pas être Hubble, ça va être Georges Lemaître. Article publié en 1927, 27. En français, dans les annales de la Société scientifique de Bruxelles.
Et donc, est-ce que c'est pour ça que l'histoire n'a pas retenu?
En partie.
C'est parce que c'est écrit en français?
En partie seulement. Lemaître résout le problème. Il dit, il calcule une solution des équations d'Einstein, dans laquelle il y a une expansion de l'espace. Il dit, ben voilà, en fait, ce que l'on observe, c'est pas un déplacement réel, c'est pas un effet Doppler des galaxies, c'est justement les galaxies s'éloignent toutes les unes des autres parce que c'est l'espace qui contient les galaxies qui se dilate au cours du temps. Alors attention, le modèle de 1927 ne comporte pas encore un Big Bang, un début de l'univers, c'est pas encore l'atome primitif qui viendra un peu plus tard. Mais c'est tout de même la chose fondamentale, le lien entre les observations des astronomes américains et l'interprétation théorique en termes d'un univers en expansion. Et dans cet article, il trouve lui-même, il décrit, il a des observations astronomiques, parce que c'est également, contrairement à Einstein, c'est à la fois un théoricien qui maîtrise parfaitement la relativité générale, mais qui est parfaitement au courant
des
observations. De toutes les observations aériennes, parce qu'il a passé des années aux États-Unis, il a fait
MIT.
Sa thèse là-bas, au MIT, etc. Donc il connaît toute cette affaire-là. Et donc c'est le premier à faire le lien. Peut-être que si Freeman avait vécu, il l'aurait fait aussi, mais enfin bon, voilà. Donc c'est Lemaître qui a pris le relais, et il découvre ce qui s'appellera plus tard la loi de Hubble. Becker y a fait une allusion, c'est-à-dire on mesure également les distances des galaxies et on s'aperçoit qu'il y a une sorte de relation, plus ou moins de proportionnalité entre la vitesse apparente de fuite, c'est-à-dire le décalage spectral, et la distance des galaxies. Au plus les galaxies sont loin, au plus elles semblent s'éloigner vite. Et donc ça passe quasiment inaperçu, sauf de Einstein, qui lisait le français. Il le rencontre en 1927 pour la première fois au congrès Solvay, en Belgique. Et il lui dit, vos mathématiques sont superbes, mais la physique derrière est absolument abominable. Parce qu'il continuait à refuser l'idée d'un univers en expansion. Alors, Lemaître était un petit peu dépité, parce qu'il avait il vouait une grande admiration.
Il était très modeste,
envers Einstein, mais il était très modeste, il voulait pas faire de vagues, etc. Et puis surtout, il a vu que son article ne rencontrait pas d'écho, et il a fallu attendre 1900. Alors, entre-temps, paraît l'article observationnel de Edwin Hubble, qui enfin, lui, a mesuré quelques décalages spectraux, mais il faut bien voir que l'essentiel des décalages spectraux qu'il utilise sont ceux qui ont été mesurés par Slipher avant lui. Donc, en 1929, il a un certain nombre de données qui lui permettent, effectivement, de publier une loi de proportionnalité entre la distance et le décalage spectral des galaxies. Et il va dire... il ne dit pas que l'espace est en expansion. Hubble est un pur observateur. Oui. Il ne comprend pas la théorie. Et il le dit lui-même, il le reconnaît. Il dit, moi je suis un observateur, je mesure des décalages spectraux, c'est de l'effet Doppler, les galaxies se déplacent, le reste, l'interprétation, je laisse ça aux théoriciens. Donc Hubble n'a pas lu Lemaître, donc il ne le cite même pas, et il fait aucun lien avec les modèles d'univers en expansion. Hein, voilà. Alors c'est pour ça que c'est quand même un peu extraordinaire d'appeler Hubble le père du Big Bang, parce qu'en fait il n'a jamais compris le Big Bang.
Voilà. Alors vous avez parlé, Jean-Pierre Luminet, de la théorie de l'atome primitif de Georges Lemaître. On va l'écouter en parler dans une archive toujours de 1950 dans l'émission Culture Française.
Nous savons qu'une des solutions de l'équation de Friedman nous fait distinguer trois phases dans l'évolution de l'univers. La période actuelle d'expansion accélérée a été précédée d'une période de ralentissement et d'instabilité où la matière préstellaire s'est groupée en galaxies. Cette période de ralentissement a été précédée elle-même d'une période d'expansion rapide dont le début, qui date de 10 à 20 milliards d'années, est marqué par une valeur théoriquement nulle du rayon de l'espace. Il est clair que nous devons identifier cette valeur initiale du rayon de l'espace avec le début de la désintégration de l'atome primitif. De la sorte, les produits de la désintégration progressive pourront toujours remplir uniformément l'espace fermé de volume fini, d'abord très petit, théoriquement nul, mais qui atteindra rapidement des dimensions astronomiques, en même temps que la fragmentation sera assez avancée pour que les morceaux ne consistent plus qu'en des atomes stables, ceux qui existent encore maintenant, et sans doute quelques atomes radioactifs de vie moyenne fort inférieure en durée à celle de l'uranium, et qui ont disparu, ainsi que la famille des corps radioactifs qui en dépendaient.
Le maître allait très loin à l'époque avec la théorie de l'explosion de l'atome primitif.
Ben oui, trop loin pour tous les autres. Oui. On apprécie juste au passage, là, en écoutant ça, justement, la modestie de le maître dont on a déjà parlé, puisqu'il parle des modèles de Friedman, alors qu'il aurait pu parler de ces modèles, lui, parce qu'ils sont plus généraux, les modèles de le maître. Hein. Bon, voilà. Donc, en 1931, il commence à avoir une reconnaissance internationale parce que Eddington s'aperçoit, par un détour un peu compliqué que j'ai pas le temps de raconter, que le maître a en fait résolu l'essentiel du problème de la cosmologie, c'est-à-dire expliquer les décalages spectraux systématiques par une expansion de l'espace, et il fait traduire en anglais l'article de 1927 de Georges Lemaître. Il y a eu aussi une petite controverse qui est née à cette époque, parce qu'en fait, dans la traduction en anglais, il y a une partie qui a été supprimée, c'est justement la partie qui mentionnait ce qui entre-temps était devenu la loi de Hubble, mais que Lemaître avait découverte en 1927. On a cru, certains ont cru à un certain moment, que c'était Hubble qui avait pu faire pression pour supprimer la partie, etc. Puis tout simplement, on s'est aperçu, ça a été résolu très récemment, la controverse, j'en parle justement dans la réactualisation de mon ouvrage, que c'était Lemaître, une fois de plus, par une extraordinaire modestie, qui s'est chargé lui-même de la traduction de son propre article et qui a décidé de supprimer cette partie-là pour éviter toute controverse, etc. Bon, voilà. Mais ce qui est extraordinaire, donc son article est publié en anglais, mais dans le même numéro de la revue, les Monthly Notices, etc., il publie un deuxième article qui va beaucoup plus loin. Parce que le modèle de 1927 disait que l'espace était une expansion, mais il n'y avait pas de début d'expansion de l'univers. Le temps pouvait s'étendre à moins l'infini. Dans 1931, il publie un article, un second article, dans lequel il y a le modèle dont il vient de parler, un modèle avec un début singulier, avec trois phases, effectivement. Une première phase d'expansion qui se ralentit, une phase où l'expansion est très très faible, et en fait, il a introduit cette phase pour permettre le temps aux galaxies de se former, parce qu'on comprend bien qu'il y a plein de problèmes qui se posent. Il faut, et si l'espace est en expansion, ça a tendance à séparer la matière. Or, il faut expliquer comment les galaxies se sont formées. Et pour former les galaxies, il faut au contraire rassembler, contracter la matière. Et donc, le maître se dit, il doit y avoir une phase où l'univers n'a pas dû s'étendre trop rapidement, sinon les galaxies n'auraient pas eu le temps de se former. Et pour ça, il introduit un terme, il utilise un terme dont on parle beaucoup encore aujourd'hui, qui s'appelle la constante cosmologique. Aujourd'hui, on appelle ça l'énergie noire, qui permet justement cette évolution particulière de l'univers. Et ensuite, une phase finale dans laquelle l'univers reprend son expansion, mais accélérée. Exactement le modèle d'ailleurs qui est devenu le modèle standard aujourd'hui. Véritable scandale parce que on retrouve l'idée d'un début de l'univers. Alors attention, le maître l'appelle l'atome primitif. Contrairement à Friedman, lui Friedman, qui finalement, il n'était pas prêtre Friedman, mais en fait il était un fervent orthodoxe russe. Et pour lui Friedman, le début de l'univers, c'était carrément la création de l'univers. Et le maître, il est important de le souligner puisqu'il était prêtre.
Il ne faut pas confondre.
Il ne fait jamais, jamais la confusion.
Il ne faut pas confondre création
et rien à voir pour lui. Seulement, on lui fera le procès de vouloir refourguer le récit biblique de la Genèse, etc. D'où ça va augmenter encore les résistances de toute la communauté, au premier rang desquels Einstein, qui continuera à dire non, ce modèle-là évoque trop le récit de la création du monde, etc. Et le maître se défendra en disant mais absolument pas, moi je résous les équations, etc. Donc son idée, c'est effectivement une phase primitive de l'univers qu'il appelle l'atome primitif. Alors, 1931, on est au début de la physique quantique, l'autre grande révolution.
Il intègre physique, ça à ses travaux.
Il commence à intégrer la physique quantique. Non, on ne sait pas grand-chose à l'époque sur la physique quantique. Et il a une intuition absolument extraordinaire. Il publie un court papier dans la revue, la célèbre revue Nature, déjà à l'époque, qui fait à peine une page. Il n'y a pas d'équation. Et le papier s'appelle, il est publié en anglais quand même, « La naissance quantique de l'univers ». C'est une idée absolument extraordinaire, je dirais complètement révolutionnaire pour l'époque, où il dit qu'effectivement, au début de l'univers, il y a eu une phase où l'univers était décrit par la physique quantique. Simplement, évidemment, comme elle n'était pas développée à l'époque, pour lui, la physique quantique, c'est la radioactivité, et donc, un peu comme l'atome d'uranium auquel, effectivement, il fait allusion dans son interview, peut se désintégrer, il imagine qu'au début de l'univers, il y avait une sorte de super-atome, donc c'était évidemment pas un point infinitésimal, mais c'était donc une phase de l'univers où on avait une sorte d'énorme atome, il avait même estimé la taille de l'ordre du système solaire, si vous voulez, mais c'était comme un atome, il s'est désintégré, et ça a donné lieu après à toute la variété des choses. Donc c'est vraiment le prototype de ce que deviendra plus tard le modèle de Big Bang.
Voilà. Oui. Alors Jean-Pierre Luminet, je vois bien que vous êtes intarissable sur sur l'œuvre de Georges Lemaître, mais je voudrais quand même qu'on avance dans le temps,
oui.
Et notamment qu'on parle de l'invention du fameux terme Big Bang. C'est oui. en 1948, au moment où triomphe la théorie cosmologique de l'état stationnaire, dont l'un des promoteurs principaux est le Britannique Fred Hoyle, qui a donc inventé ce terme pour s'en moquer, le terme Big Bang, dans un débat radiophonique avec Gamow. Écoutez Fred Hoyle interviewé à la fin de sa vie, il est mort en 2001.
I don't believe in the Big Bang because there has been a theory rather well worked out of how.
Je ne crois pas au Big Bang parce qu'il y a une théorie assez bien élaborée qui a expliqué comment le Big Bang est censé avoir eu lieu. Mais mon sentiment, c'est que ce n'est probablement pas correct. Il y a trop de suppositions et c'est trop éloigné des observations astronomiques.
Observe what happened. 10,000 million years ago.
De manière assez évidente, on ne peut pas observer ce qui s'est passé il y a 10 milliards d'années, et nous ne pouvons pas non plus observer ce qui se passe au centre de notre galaxie aujourd'hui. Donc je préfère toujours choisir l'alternative qui permet de mener des observations aujourd'hui. Je n'aime pas l'idée que quelque chose dépende d'un événement que je ne peux pas vérifier.
Voilà, donc l'idée de Hoyle avec oui. d'autres scientifiques, Gold et Bondi, c'est que l'univers a toujours été et sera toujours comme il est maintenant. Et il pense que les éléments, tous les éléments, ont été créés au cœur des étoiles.
Oui, alors, ce qui est extraordinaire à écouter cette interview, c'est que alors, lui, en fait, il fait des hypothèses encore bien plus extravagantes que celles qu'il critique, parce que donc il a une idée, il réfute absolument l'idée d'un début de l'univers lui aussi. Donc il imagine que l'univers existe depuis toute éternité. Mais comme on observe qu'il est en expansion, ça veut dire qu'il se dilue. Et donc pour compenser cette dilution, il imagine qu'il y a un champ de force mystérieux qui crée spontanément de la matière dans l'univers. Voilà, pour maintenir une sorte de densité constante dans l'univers. Donc c'est bien plus extravagant, effectivement, que les solutions naturelles. Alors pourquoi cette théorie tient un petit peu le devant de la roue dans les années 40
Mais
parce
50,
que l'opposition des cosmologistes à l'atome primitif de Lemaître. Et puis effectivement, l'absence d'observations autres que les juste l'expansion de l'univers, qui peut éventuellement être interprétée autrement, fait que finalement, cette théorie de l'état stationnaire, et puis la forte personnalité de Fred Hoyle, qui est quand même un astrophysicien britannique de grande réputation, et qui fait un remarquable travail, puisqu'il montre que les éléments chimiques se forment dans les étoiles. Hein, voilà. Et il croit, et là il fait une erreur, il croit que tous les éléments chimiques se forment dans les étoiles. Et il faudra attendre Gamow pour montrer que non, les éléments dits légers, l'hydrogène et l'hélium, ne se forment pas dans les étoiles, ils peuvent pas se former dans les étoiles, ils doivent se former dans une phase extrêmement chaude de l'univers, et ça va être un point majeur pour conforter les modèles de Big Bang. Et en fait, le modèle de l'état stationnaire de Fred Hoyle finira par être éliminé réellement avec la découverte de ce qu'on appelle le rayonnement fossile, qui est donc ce rayonnement résiduel d'une phase extrêmement chaude de l'univers. Mais c'est vrai que Fred Hoyle, avec sa personnalité extraordinaire, a voulu se moquer de l'atome primitif de Lemaître en l'appelant le grand boom, la grande explosion, alors qu'évidemment, c'est une fausse image. Le terme est resté, mais évidemment, le modèle de la cosmologie de Lemaître, c'est pas du tout une explosion prenant place quelque part dans l'espace, à un certain moment dans le passé, avec des débris qui seraient éjectés dans un espace préexistant. C'est pas ça du tout, hein. Voilà. Donc, il se moquait un petit peu de la théorie, et il se moquait un petit peu de Georges Lemaître, qui à la fin de sa vie était devenu un petit peu, qui était très amateur de pâtisserie, voilà. Il avait tendance à être un petit peu lui-même, en expansion physique. Voilà. Donc, il l'appelait The Big Bang Man.
Autour de la question, qui sont les pères du Big Bang? Jean-Pierre Luminet, nous allons parler des observations les plus récentes et des satellites juste après Lou Reed, Satellite of Love.
Satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love, satellite of love, satellite of love, satellite of. Satellite's gone way up to Mars.
pork and cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. You've been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday with Harry, Mark, and John. Satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. It for a little while. I love to watch things on TV.
Satellite of Love sur RFI. Jean-Pierre Luminet, l'histoire du Big Bang se découpe en plusieurs périodes et nous sommes aujourd'hui dans la période de renouveau expérimental avec les grands progrès technologiques en matière d'observation. Alors on peut citer le satellite Kobe, WMAP pour côté américain et puis le satellite Planck côté européen. Quels sont les apports de ces différents satellites?
À un phénomène fondamental qui s'appelle le rayonnement fossile. J'ai rapidement fait allusion. Donc très brièvement, un petit retour. En 1948, Gamow et ses collaborateurs, Alfred Hermann, prédisent que dans le modèle de l'atome primitif, si l'univers primordial a été très chaud, il doit y avoir aujourd'hui un rayonnement résiduel, une température de quelques degrés au-dessus des zéros absolus. Ce rayonnement est découvert par hasard par Penzias et Wilson, deux ingénieurs américains, en 1965. Ça porte un coup fatal à la théorie de l'état stationnaire.
Et ils y croyaient quand ils ont fait leur découverte.
À l'état stationnaire.
C'est ça qui est fou.
Oui, donc ça porte un coup fatal à la théorie de Hoyle et ça remet sur le devant de la scène, enfin, les modèles donc de Lemaître perfectionnés par Gamow. Après, donc, ça a été toute une série donc d'observations qui ont affiné l'observation de rayonnement fossile. En 92, le satellite américain Kobe, qui pour la première fois fait une cartographie complète de ces rayonnements fossiles et commente à montrer pour la première fois les fluctuations de matière et d'énergie et de lumière de ce très jeune univers, parce que le rayonnement fossile date d'une époque de 400 000 ans après seulement le Big Bang, en admettant qu'on mette le temps zéro, si vous voulez, de l'univers au Big Bang. Donc, par rapport à nous, c'est une remontée de quasiment 14 milliards d'années dans le passé. Hein. C'est toute la première lumière de l'univers. Et puis donc ça s'est affiné. En 2003, il y a eu les résultats d'un autre télescope américain qui s'appelle donc WMAP, qui a permis de faire un bond en avant spectaculaire parce que on a maintenant une telle finesse d'observation qu'on est rentré dans une nouvelle ère de la cosmologie qu'on appelle une cosmologie de précision. Parce qu'avant cela, on avait des modèles théoriques parfaitement au point, mais les observations étaient avaient un énorme degré d'incertitude. Par exemple, sur l'âge de,
l'univers,
on ne savait pas si c'était entre 10 et 20 milliards d'années. Et grâce à WMAP, on dit c'est entre 13,5 et 14 milliards d'années. Puis avec Planck, le dernier satellite en date, 2013, c'est 13,7 milliards d'années. Ça, c'est pour l'âge de l'univers. Après, tout un ensemble d'autres conséquences, par exemple la composition de l'univers, de quoi est-il fait? On sait aujourd'hui que l'univers n'est rempli que d'une partie infinitésimale de matière ordinaire, la matière qui brille ou la matière atomique dont nous sommes faits, l'essentiel de l'univers, c'est de la matière noire, de l'énergie sombre, etc. Des choses qu'avait déjà prédites le maître, mais qui avaient été aussi oubliées. Et donc, à la fin des années 1950, 1990, on découvre enfin l'accélération de l'expansion de l'univers. N'oublions pas que c'était le modèle qui était privilégié par le maître, dès 1931, et qui avait été complètement oublié. Donc, ça refait surface, etc. Donc, on en est là aujourd'hui avec une cosmologie qui s'est considérablement affinée, qui évidemment a apporté des améliorations sur les modèles originaux de le maître, notamment sur la description des tout premiers moments de l'univers, où la physique quantique est maintenant assez bien développée, elle commence à jouer un rôle vraiment important au tout début de l'univers. Et voilà, c'est la cosmologie d'aujourd'hui, et ça repose sur le socle de ces pionniers qui ont été essentiellement Friedman, Lemaître, Gamow et quelques autres.
Un mot peut-être, Jean-Pierre Luminet, sur l'hypothèse des ondes gravitationnelles qui vient d'être réfutée par Planck. Là, il y a quelques jours, j'ai lu un article dans le journal Le Monde.
Oui, alors si, tout début de l'univers, lors d'une certaine phase, il a dû y avoir effectivement des ondes de gravitation, des choses prédites par la théorie de la relativité générale, de très faible amplitude et très difficiles à détecter. Et donc l'année dernière, une expérience américaine, un télescope placé en Antarctique, avec grand fracas médiatique, annoncé qu'on avait enfin découvert ces ondes gravitationnelles qui avaient laissé une trace dans le rayonnement fossile, une trace très particulière qu'on appelle la polarisation, etc. Bon, beaucoup d'entre nous n'avons pas cru à une annonce aussi sensationnelle, et effectivement, les équipes qui travaillent sur les données du satellite Planck ont travaillé pendant plusieurs mois, et elles viennent de montrer qu'effectivement, les astronomes américains avaient oublié quelque chose d'important, c'est-à-dire la présence de poussière galactique qui ont effectivement brouillé le signal et leur ont fait croire qu'ils avaient découvert les ondes gravitationnelles. Malheureusement, on n'a pas encore trouvé les ondes gravitationnelles venant du Big Bang.
Merci beaucoup Jean-Pierre Luminet. Je rappelle que votre livre « L'invention du Big Bang » est disponible en poche dans la collection Point Seuil Science.
Autour de la question sur Internet, www.rfi.fr.
La semaine prochaine, nous parlerons d'Alan Turing, mathématicien et logicien, père de l'informatique et de l'intelligence artificielle. Merci à Cécile Bonici, et lundi, vous retrouvez bien sûr Caroline Lachowski. À la semaine prochaine.